Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Chronique d'un siècle par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Chronique d'un siècle est un lien entre le 19e siècle et notre époque. J'aborde ici la troisième émission. Elle concernera les poilus face à la mort. Les deux précédentes émissions, rappelez-vous, c'était le suffrage universel et les courtisanes sous le Second Empire. Alors aujourd'hui, pourquoi la guerre de 14-18? Eh bien, en cette nouvelle période de guerre médiatisée, car rappelons-le, toutes les guerres ne sont pas commentées en boucle à longueur de journée, donc, dis-je, en cette période, je pense qu'il est bon de se souvenir de ce qu'est la guerre. Les journalistes semblent toujours étonnés lorsqu'il y a des morts. Alors, faisons appel à ces hommes, ces poilus qui, pendant plus de 4 ans, firent face à la mort pour la patrie. Ou plutôt, ainsi que l'écrit Anatole France, « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels ». Un petit intermède avec un extrait du concerto pour la main gauche de Ravel. Ce morceau fut composé en 1929 à la demande du pianiste autrichien Paul Wittgenstein qui avait perdu son bras droit pendant la guerre de 14-18. Louis Crémer, le 13 décembre 1914, écrit à ses amis « Ma fille ne tient qu'à un fil et n'est qu'un perpétuel jeu de cache-cache avec la mort. Un miracle indéfiniment renouvelé, heure par heure, minute par minute. » Tel est le quotidien du poilu dès 1914. Comment ces hommes, tout milieu social confondu, vont-ils vivre, ou plutôt survivre malgré l'omnipotence de la mort? Juste un petit mot sur Louis Crémer. Cet homme était un poète et il a laissé ses lettres écrites à des amis pendant la guerre. Nous avons donc, de 1914 à 1918, tout son parcours intellectuel, mais aussi son parcours moral. Blessé en juin 18, il mourra de ses blessures en juillet 18. Son livre, D'encre de fer et de feu, est disponible. Je vous le conseille grandement. Pendant 4 ans, pour ceux du front, les charognes, les odeurs de décomposition, les charniers, les débris humains, les carcasses d'animaux, les cadavres recouverts puis découverts par la boue, les camarades ou les adversaires tués dans un raffinement d'horreur, et pour ceux de l'arrière, le deuil, l'incertitude, la volonté de savoir le déroulement des derniers instants de l'être aimé. La mort est notre destinée commune, écrivait Pythagore. Mais comment l'affronter lorsque l'imminence en est constamment imposée? Il faut trouver un moyen d'exorciser cette peur. Certes, l'appel à la défense de la patrie, à la revanche, à la reprise de l'Alsace et de la Lorraine. Et ces hommes vont partir enthousiastes, ou bien endoctrinés, émerveillés encore par les belles images de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, des descriptions romantiques de belles batailles, comme celles que l'on peut trouver chez Stendhal ou chez Michelet. Ils vont vite comprendre l'horreur de la guerre et ils vont apprendre à l'accepter. Mais les voies pour supporter cette situation diffèrent selon les classes sociales, selon les classes politiques, culturelles, religieuses. L'école de la Troisième République, pour une majorité de la population, tint un rôle important dans l'acceptation de la guerre et du sacrifice de sa vie pour la sauvegarde de l'enfance. L'école contribuait à propager, jusque dans les campagnes les plus reculées, la morale sociale, et cette dernière maintenait, autant que la morale prônée par l'Église, le citoyen dans l'attitude obéissante que lui imposait la République. Cela aboutissait à une surveillance étroite des uns par les autres et à l'isolement de celui qui enfreignait la loi. Pendant la guerre de 14-18, très peu d'hommes ont déserté. Très peu d'hommes se sont enfuis pour ne pas avoir à affronter cette guerre. Parce que s'ils l'avaient fait, ils savaient que leur famille en pâtirait. Ils savaient que leur famille serait montrée du doigt. Et pour cette raison, ils ne le faisaient pas. Ce carcan n'empêchait pas une morale personnelle de se construire à travers des partis politiques, des syndicats aussi. Syndicats qui étaient à l'époque souvent surveillés, interdits même. Et puis, à travers les églises, elles étaient séparées de l'État, on le sait, depuis 1905. Mais elles existaient toujours. Et puis, il y avait le mouvement ouvrier, il y avait la philosophie, et il y avait déjà la presse. Donc, un grand nombre de poilus comprirent clairement que cette guerre était importante pour les enjeux politiques, économiques, idéologiques. Mais cette conscience ne les a pas préservés des mutilations et puis du sacrifice de leur vie. Et beaucoup ont fini avec une croix sur le ventre qui stipulait « mort pour la France ». En fait, toute cette conscience les a soutenus dans leur face-à-face avec la mort. Dans un livre, Les Mémoires d'un rat, écrit par Pierre Chêne, un petit chef-d'œuvre. En fait, c'est un rat qui a été capturé dans les tranchées, mais ce rat raconte la guerre. Je vous le conseille là aussi. Donc Pierre Chêne, l'auteur, écrit. La guerre n'est pour l'historien qu'un synchronisme de mouvements et de dates. Pour les chefs, elle représente un formidable labeur, et pour le profane, un intéressant spectacle. Mais pour le soldat qui combat dans le rang, la guerre n'est qu'un long tête-à-tête avec la mort. Et c'est ce tête-à-tête, en fait, qu'il faut accepter, et que les poilus vont devoir accepter pendant plus de 4 ans. Ce tête-à-tête soulève évidemment bien des interrogations, de l'incompréhension, quelquefois de l'admiration de la part de nous, les descendants de ces poilus. Vous avez remarqué pendant le centenaire 2014-2018 que de nombreuses publications ont fait ressortir l'importance des témoignages des combattants de 14-18. Donc on a la correspondance, on a des carnets, on a même évidemment des romans, puisque 14-18 donnait envie d'écrire à plus d'un homme et que certains sont devenus ensuite des écrivains célèbres, comme par exemple Gabriel Chevalier, ou même comme Dorgelès, ou comme Barbus. En fait, à travers les textes, les témoignages, on peut tenter de comprendre cet amalgame de l'obéissance au carcan social et en même temps de la fidélité au choix individuel de vie qui a permis aux poilus de tenir dans des conditions inhumaines. Seulement, ça serait trop simple, parce que l'âme humaine est très complexe et elle est capable de compassion pour son prochain, même si parfois elle peut prendre plaisir à tuer ou à contempler la décomposition morbide. Et un auteur allemand a très bien décrit cela, c'est Junger. Junger a écrit beaucoup de textes sur la guerre, parce que il a été traumatisé et il va écrire, ou plus exactement décrire, cette joie primaire de tuer. L'ivresse, la soif du sang, lorsque les tressaillantes nuées de la destruction pèsent sur le champ et la fureur. C'est la volupté du sang, flottant au-dessus de la guerre, comme la rouge voile des tempêtes au mât de la galère noire, et dont l'élan illimité n'est comparable qu'à l'amour. Il est vrai que chez Junger, on retrouve un côté homérique de la description de la bataille, mais il n'est pas le seul à avoir eu cette sensation de jouissance, de mort. Tuer, en fait, devenait presque un plaisir. Alors, on peut le mettre en doute dans le sens où l'on se dit qu'il est un militaire, qu'il est un grand littéraire, mais on retrouve ce témoignage chez d'autres anciens combattants, et en particulier chez un qui est loin de toute littérature et qui est un simple poilu qui a laissé son témoignage. La guerre a fait de nous non seulement des cadavres, des impotents, des aveugles, elle a aussi, au milieu de belles actions, de sacrifices et d'abnégation, réveillé en nous, et parfois porté au paroxysme, d'antiques instincts de cruauté et de barbarie. Il m'est arrivé, et c'est ici que se place mon aveu, à moi qui n'ai jamais appliqué un coup de poing à quiconque, à moi qui ai horreur du désordre et de la brutalité, de prendre plaisir à tuer. Une lettre, enfin des lettres, qui ont été regroupées en un livre, que je vous invite encore à lire, c'est les lettres de guerre du Eugène Manuel Lemercier, qui fut un jeune peintre fauché dans les premières années de la guerre. Il a écrit des lettres d'une beauté vraiment impressionnante et surtout bouleversante. Et voici ce qu'il écrit. Nous abordons au lieu d'horreur. Si ces notes parviennent à quelqu'un, puissent-elles faire naître dans un cœur honnête une horreur pour l'immonde forfait de ceux qui sont responsables de cette guerre? Il n'y aura jamais assez de gloire pour couvrir tout ce sang et toute cette boue. Et puis, après quelques semaines, il y a comme une acceptation, en fait, de la part de Lemercier, et il va s'imprégner totalement de la beauté de la nature. Et il va écrire des phrases comme celle-ci. Les semaines passant, jamais la majesté de la nuit ne m'apporta autant de consolation qu'en cette accumulation d'épreuves. Vénus étincelante m'est une amie. Et 3 semaines plus tard, le 16 novembre 1914, il écrit encore. Que c'est beau! Et quelle bénédiction de suivre chaque heure de la journée et de la nuit, de suivre l'embrasement du feuillage à chaque jour de l'automne. Comme l'affreuse turbulence humaine ne parvient pas à troubler la sérénité majestueuse de la nature. Ne croyez pas que je reste insensible à l'avance des spectacles dont nous sommes rassasiés, villages anéantis sur lesquels s'acharne l'artillerie. À chaque instant, on reçoit un choc en plein cœur. Mais c'est précisément pourquoi je me réfugie dans cette consolation supérieure. Car souffrant également, je ne pourrais, sans cette discipline du cœur, supporter sans désarroi notre situation. Là, on se rend bien compte, en fait, qu'il n'est plus question de patriotisme. Quelques mois auparavant, nous avons encore tous l'image d'Épinal, de ces Français partant la fleur au fusil, mais les choses ont changé. Et lorsque je dis « image d'Épinal », c'est vraiment une image qui fut largement répandue pour soutenir l'arrière, bien évidemment. Mais c'est une image que l'on va nous mettre dans nos petits livres d'histoire, que l'on va mettre dans les documentaires sur 14-18. Et en 2014-2018, pour le centenaire, ces images, enfin cette image d'Épinal ressortira régulièrement. Partir la fleur au fusil. Mais ça, c'est faux. Parce que cette idée de fleur au fusil, on va se rendre compte très rapidement que ça ne va pas rester là face au continuel combat avec la mort. Mais surtout, cette fleur au fusil, eh bien, beaucoup de témoignages nous expliquent bien, et particulièrement celui de Lintier, qui dit que c'était les officiers qui avaient demandé, qui avaient eux-mêmes mis des fleurs sur les canons, et on avait distribué aux soldats, pour défiler dans les rues des villes. Alors bien sûr qu'il y a eu aussi quelques bouquets lancés par des jeunes filles ou des jeunes femmes pour soutenir leurs hommes. Mais il ne faut pas oublier que c'était dans la caserne que se faisait le principal ornement de ces baïonnettes et de ces canons. Donc, je voudrais quand même dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de poilus patriotes, revanchards, avec l'idée que les Boches sont des barbares, des assassins. Mais tout cela, et particulièrement les petites Alsaciennes avec leurs grands nœuds noirs qui brandissent le drapeau français, hein, qui est le drapeau de la victoire de la civilisation sur la barbarie, tout cela semble quand même des raisons assez insuffisantes pour rendre compte d'un carnage qui durera quand même 52 mois. Et c'est aussi des raisons insuffisantes pour comprendre le sacrifice de 10 millions d'hommes. Donc, c'est vrai que depuis l'enfance, que depuis ce centenaire aussi, on a ces images d'Épinal qui sont revenues, comme je viens de vous les citer. Alors, comment faire, en fait, pour comprendre le chagrin, les angoisses, les peurs de ces hommes ? Eh bien, en fait, il faut vraiment s'attacher aux témoignages, les lire et les relire. Il y a des dizaines et des dizaines de témoignages des poilus. Et lorsqu'on les lit, on retrouve à peu près toujours cette même peur. Alors, expliquer, analyser différemment, ressentir différemment, mais elle est là. Et certains, là aussi, on ne peut pas le nier, on le voit dans les écrits, acceptent ce sacrifice en clamant leur amour de la patrie. Il y en a plus qui essaient d'apprivoiser, de comprendre, d'accepter et de se résigner. Et je dis bien résigner, parce que le terme de résignation et acceptation sont en fait les termes les plus souvent employés pour ce carnage. Est-ce que vous pouvez imaginer deux secondes le travail intérieur que ces hommes ont dû faire pour arriver à accepter et à se résigner? Dans tous les témoignages que on peut lire, on se rend compte souvent que de la première page à la dernière page, on assiste à un parcours psychologique. Parcours psychologique est évidemment nécessaire, soit pour survivre, soit pour mourir. Il ne faut pas oublier que l'un ou l'autre, de toute façon, sont intimement liés. Donc, ces témoins, vous allez me dire, ce sont des écrivains. Non, 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 dans les témoins, il y a tout. Il y a des écrivains, il y a des artistes, il y a des officiers, il y a des médecins, il y a des ouvriers, il y a des instituteurs, parce que ce sont eux qui ont été en tête à tête avec ce que l'on appelle l'indicible, c'est-à-dire la mort. Et c'est à travers leur écrit que l'on peut comprendre cette motivation profonde, ou ces motivations profondes, qui leur ont permis de tenir. Parce que c'est ce que leur demandait l'état-major. Il faut tenir. Il y a aussi autre chose à savoir, c'est que selon les corps d'armée, eh bien, le tête-à-tête avec la mort était très différent. Un artilleur comme Apollinaire, il n'est pas en prise directe avec la mort. Tandis que le fantassin, comme le Mercier que je citais tout à l'heure, lui, il est en première ligne. Et lorsque Apollinaire écrit que c'est beau ces fusées qui illuminent la nuit, mais ce serait bien plus beau s'il y en avait plus encore, il ne faut pas oublier que c'est l'artilleur Apollinaire qui écrit, et non pas le fantassin. Cet émerveillement me rappelle l'émerveillement des journalistes lors de la première guerre du Golfe devant les magnifiques feux d'artifice. Bon, ça c'était une parenthèse. En revanche, les fantassins, eux, ne chantent pas la beauté de la guerre. De temps en temps, on trouve des chants sur la beauté du sacrifice. Alors ça, on le trouve chez les exaltés, du style Charles Péguy ou Psychary. Mais en général, les nombreux témoignages qui nous sont parvenus expriment l'horreur des tranchées. Junger, qui, je le rappelle une nouvelle fois, était militaire, et donc on ne peut pas le taxer d'antimilitarisme, n'hésite pas à écrire « La tranchée, rempart et antre de ténèbres pour les cœurs qu'elle aspirait, rejetait en incessante alternance. Moloch, incandescent, qui lentement réduit en scorie la jeunesse des peuples, réseau de veines recouvrant de ses entrelacs, ruines et champs avilis, d'où le sang des hommes a coulé dans la terre à fort giclement. Et plus loin, elle se gorgeait de sang, de silence et de force virile, afin d'entretenir son pesant mécanisme. Si la pluie avait noyé les tranchées, si un tourbillon de fer les avait retournées, c'était le moment de s'enfouir en terre et limon, telles des bêtes qu'on a tirées de leurs trous et qui courent se renfoncer dans le sol. » Cette écriture épique, c'est vrai que l'on y retrouve Homère, n'empêche pas Junger d'être proche des témoignages de combattants. Des combattants moins cultivés, certes, moins militaristes, certes aussi, mais qui ont dit la même chose, avec peut-être moins de puissance dans l'écriture, mais autant de puissance dans les sentiments. Quelle puanteur dans cette tranchée, couvert de boue des pieds à la tête. Je constate que les parois de cette tranchée ne sont qu'un pâté de terre et de chair humaine avec 1000 débris d'armes et de vêtements. Voilà, c'est ça le quotidien des soldats. La boue, les cadavres, le froid, les corvées, les attentes interminables de leurs haches. Et cela, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur milieu social. Un petit intermède avec l'incontournable guerre de 14-18 de Georges Brassens.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre, non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
C'est pour cela que la fraternité des camarades de combat, fidèles à la parole donnée avant l'attaque, pleurant l'ami disparu, écrivant à la famille ou rendant visite à la veuve pour rapporter les dernières paroles, les derniers moments, n'empêche pas pourtant la solitude de l'angoisse et les interrogations mystiques, politiques, sociologiques sur leur présence dans cette folie indicible. Alors on se tourne vers Dieu, l'au-delà, l'écriture, la nature, l'art. On tente de comprendre les enjeux politiques, économiques. En fait, tant de solutions propres à chacun. Des réflexions que chacun essaie de partager dans sa correspondance, ses carnets, très important le carnet, ou alors son témoignage d'après-guerre. Chacun apprend à sa manière à supporter la mort, à se résigner à sa propre mort, à regarder la mort des autres et sa propre mort en face. Il ne faut pas oublier que ces poilus vivaient au milieu des cadavres, qu'ils voyaient le travail de décomposition de la mort, qu'ils marchaient sur des débris humains, que quelquefois ils recevaient des morceaux de cervelle de leurs copains parce qu'un éclat leur avait fait exploser la tête. Alors Eugène Lemercier, dans une lettre du 5 mars 1915, écrit à sa mère: comme la mort est harmonieuse dans la terre et admirable si l'on compare la mesquinerie humaine des cérémonies funèbres. Oui, vraiment, la mort du soldat est près des choses naturelles. C'est une horreur franche et qui ne triche pas avec la violence universelle. J'ai passé maintes fois auprès de cadavres dont je pouvais observer le progressif enfouissement, et cette nouvelle vie était plus réconfortante que le froid et immuable aspect des tombes citadines. Lemercier fait une très belle description de la mort physique. C'est vraiment un morceau de poésie, mais l'on sent que quelque part, en lui, il y a déjà une fêlure. Il mourra d'ailleurs très peu de temps plus tard. En revanche, Junger, lui, décrira avec précision, une précision presque médicale, j'ai envie de dire plutôt macabre d'ailleurs, l'horreur de la vie auprès des cadavres en décomposition. Alors entre ces deux visions, c'est-à-dire celle de Junger où l'on a l'horreur et celle de Lemercier où l'on a la poésie, il y a un juste milieu. Et ce juste milieu est décrit par le capitaine Paul Flamand. Un soulier chaussant un tibia apparaît à la suite de quelques éboulements. Nos hommes, indifférents ou plutôt philosophiques, y accrochent leur bidon. Voilà. Le tibia ne sert plus que de porte-manteau. Donc, on n'a pas 36 recours. On a le recours à Dieu, à la nature, au cynisme, à la politique, à l'alcool, à la drogue. Tout est bon pour ne pas sombrer dans la folie. Alors, à propos de l'alcool, eh bien, on sait que l'État a fourni en alcool ses poilus, parce que c'est une manière de les calmer. Vous savez, l'alcool est le premier anxiolytique, même encore aujourd'hui. Donc, il leur donnait de l'alcool, Alors, le pinard, évidemment, mais aussi de la gnôle avant le combat. Mais il faut savoir que dans la gnôle, il y avait très souvent de l'éther, même pour ainsi dire tout le temps. Et cela, on le retrouve dans beaucoup de témoignages, de tous les soldats, de toute nationalité. Il le disait, que ce soit le schnapps ou la gnôle, cela avait un drôle de goût. Pourquoi l'éther ? Eh bien parce que l'éther est une drogue et qu'elle permet d'avoir une vision déformée de la réalité. Vous imaginez bien que si vous n'avez pas été drogué d'une manière ou d'une autre, quand on vous dit de sortir de la tranchée face à la mitraille, on hésite quand même. À propos aussi de la drogue, il faut savoir que la drogue circulait dans les tranchées et que c'est d'ailleurs par la guerre de 14-18 que la drogue s'est démocratisée et que ensuite, après la guerre, pendant les années folles, il y a eu toute cette série morphinomanes, cocaïnomanes, et parce qu'ils avaient goûté cela dans les tranchées. Junger, d'ailleurs, en parle, puisque c'est pendant la guerre de 14-18, dans les tranchées, qu'il a découvert la drogue et qu'il a fait ses expériences de drogue. On ne nous en parle pas assez souvent, même on ne nous en parle pour ainsi dire pas. Les historiens ont mis ça de côté. Cela arrange certainement le gouvernement de penser que la guerre de 14-18 est une guerre patriotique, avec des hommes qui voulaient venger la patrie. Ça, c'est le discours officiel. Mais c'est autre chose, la guerre de 14-18. Et ça, c'est pas assez dit. En tout cas, à mon goût. Alors, juste un petit intermède, avec une chanson affligeante, mais qui fut demandée par l'État à Louis Bousquet et Georges Piquet. Bousquet était un parolier et Piquet était un musicien. Et ils ont écrit une chanson pour soutenir le moral des troupes. Et cette chanson, c'est « Vive le pinard ». Alors, je vous préviens, ce n'est pas extrêmement fin ni extrêmement poétique. C'est vraiment « Il faut boire, ça nous donne du moral ».
De France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar, une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. Une queue, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard. Aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, jusqu'à la mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine, ça n'empêche pas d'adorer le pinard. Oh non, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard. Sur le talus, renverse ta perdère, de l'ennemi, renverse nos remparts. Dans les boyaux, fiche-toi la gueule par terre, mais ne va pas renverser le pinard. Oh non, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard. Chancelette, je vous en prie, ne soyez pas flemmard. Prouvez-moi-le en chantant cette tue-tête, le gai refrain de vive le pinard. En cœur, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard, vive le pinard, vive le pinard. Vive le pinard.
de sensibilités différentes, mènent souvent à des discours contrastés. Donc on a le patriotisme, l'exaltation, la folie, la brutalisation, l'acceptation, la résignation, le mysticisme, l'attirance parfois même, et la résistance farouche, parce que on veut retrouver les siens, et puis comme je vous disais précédemment, les drogues et le vin. À propos de la folie, il faut savoir, et ça on le retrouve dans le témoignage de Gaudi, dans d'autres aussi, mais dans Gaudi particulièrement, beaucoup d'hommes sont devenus fous. On connaît ces images où l'on voit ces hommes atteints d'obusite ou et qui finiront pour la plupart d'ailleurs leur vie en asile. Mais là encore, c'est quelque chose que l'on ne nous met pas tellement en avant dans les livres d'histoire. Or, Gaudi parle de sa montée à Verdun et il voit les hommes en descendre. Et là, parmi ces hommes qui en descendent, il y a un nombre de fous qui l'impressionnent. Des hommes qui ont perdu absolument toute notion de la réalité. Pour ce qui est de l'attirance, eh bien oui, certains ont été attirés par la mort parce qu'ils se disaient qu'enfin ils sortiraient de cet enfer. Et cela s'est arrivé à un écrivain, Émile Clermont, qui a écrit un très beau livre, Amour promis, magnifique livre de la fin du 19e, et qui ne supportera pas cette guerre. Déjà, il était germanophile, germanophone, et ce combat entre deux cultures qu'il admirait, l'ont totalement détruit. Et en 1915, ne pouvant plus supporter cela, il a sorti la tête de la tranchée et il a reçu une balle. Ça, c'était quelque chose qui se faisait très souvent. Donc, attitude, comportement différent et qui permettent au poilu de faire face à la mort. En tout cas, d'essayer de la regarder, de tenter d'apprivoiser son mystère. Des centaines de poilus ont voulu laisser une trace de cette guerre, de leur réflexion, de la fraternité dans le désespoir, et puis de leur insoutenable solitude face à la mort. Et cela malgré la censure. Alors la censure, il y a celle bien sûr de l'État, de l'État-major d'ailleurs. Souvenez-vous qu'il y avait tout un bureau pour lire les lettres des poilus et barrer ce qui ne devait pas être écrit. Il y a l'auto-censure. Ah oui, à force d'être rabroué, eh bien, on s'auto-censure. Et puis la mort. Barthas, le tonnelier Barthas, qui a laissé ses souvenirs, que je vous recommande aussi, a tenu ses carnets pendant toute la guerre et il écrit, il veut témoigner de l'histoire de son calvaire et de celui de ses camarades. Le carnet, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est le lien entre le poilu et la famille. C'est-à-dire que lorsque le poilu meurt, les camarades envoient à la famille le petit carnet. D'ailleurs, là encore, Barthas l'écrit, « Nous trouvâmes un sac déchiqueté où seul un carnet de notes était intact. C'était celui de Mondiès, que comme seul souvenir de lui, j'envoyais à sa famille. » Donc, vous imaginez tout ce que peut représenter ce petit carnet, toute l'émotion qu'il contient. Je voudrais terminer cette première partie sur cette phrase de Crémer, qui, devant l'horreur de leurs conditions de soldats, avait écrit « Une passion près de laquelle celle du Christ ne fut qu'un jeu misérable. » Et donc, pour terminer, je vous laisse sur du Debussy. Debussy a écrit, juste avant sa mort, en 1915, une chanson patriotique, qui s'intitule « Noël des enfants qui n'ont plus de maison ». C'est donc une référence à l'arrière et à la souffrance de ces enfants qui ont été terriblement touchés par cette guerre. J'ai choisi la version de Dalton Baldwin au piano et d'Élise Ameling pour la voix. Votre écoute. Et vraiment, n'hésitez pas à suivre, à me contacter par l'intermédiaire de mon blog chroniquedunsiècle.com ou sur ma page Facebook Chronique d'un siècle. Je répondrai avec plaisir. On se dit à très bientôt pour la deuxième partie de cette histoire, abrégée évidemment de 14-18. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.